Bien, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau cycle annuel sur la question de Palestine. Alors, pour ceux que cela intéresse, le volume 4 est sorti tout à fait récemment. C'est donc les cours de ces dernières années dans une version plus complète que la version orale. C'est le rameau d'Olivier, le fusil du combattant, tome 4 de la question de Palestine aux éditions Fayard. Donc c'est le cours, enfin, vous l'avez déjà écouté pour la grande majorité, c'est à vous de voir. Et vous trouverez évidemment dedans la bibliographie du sujet, question qui m'est parfois posée. Je vous ai abandonné l'année dernière au milieu des années 1980, après le fiasco de la politique américaine au Liban suite à l'invasion israélienne de juin 1982. Et ceci avait paradoxalement rouvert les possibilités de discussion politique qui avait pris la forme d'un accord entre le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat et l'ONP sur une plateforme commune de négociation, ceci portant sur l'idée d'une conférence internationale dans laquelle les Palestiniens seraient représentés dans, au sein d'une délégation mixte jordano-palestinienne. Mais si les Américains et les Israéliens veulent bien d'une négociation, c'est d'une négociation directe entre Israël et la Jordanie et sans participation de l'ONP. Sinon, je vous avais laissé sur une situation assez terrible au Liban, déchirée par une succession de guerres civiles qui sont parfois plusieurs en même temps dans certains cas, avec en particulier ce qu'on avait appelé la guerre des camps, c'est-à-dire les affrontements autour des camps palestiniens entre la milice chiite Hamal et les forces palestiniennes. Donc je crois à peu près que c'était là où nous étions arrêtés il y a à peu près un an. Et nous allons reprendre en juillet 1985, toujours selon la même démarche chronologique qui nous instille depuis le début. Et je dirais que nous arrivons presque dans la dernière longueur, parce que je pense que ce cours sur la question de Palestine sera terminé non pas dans cette année universitaire, mais dans la prochaine, c'est-à-dire elle aura mis 10 ans à peu près à être fait. En tout cas, donc, nous sommes en juillet 1985. La concertation américano-jordanienne se poursuit. La Jordanie a soumis, après accord de l'ONP, une liste de 7 noms de personnalités palestiniennes susceptibles de former la représentation palestinienne. Ces 7 noms étant tirés d'une liste de 22 noms que Arafat avait préalablement soumis aux Jordaniens. 5 des noms sont des Palestiniens de l'extérieur, des proches d'Arafat, et 2 viennent des territoires occupés. Ah oui, en Israël, on est dans un système de gouvernement de coalition, j'ai oublié de le dire, c'est important, fondé sur le principe de la rotation. Donc pendant la première moitié de la mandature, c'est Shimon Peres qui est Premier ministre et Rabin qui est ministre de la Défense. Et puis, ensuite, à mi-mandature, c'est à Shamir de prendre la direction du gouvernement. Donc, Peres récuse les 5 membres de l'ONP et n'accepte que les 2 venant des territoires occupés. Ce que veulent absolument les Israéliens, c'est interdire toute possibilité de dialogue direct entre les Américains et l'ONP, ce qui est théoriquement prohibé depuis l'accord dit Sinaï II. Le 19 juillet 1985, le roi Hussein rencontre secrètement Shimon Peres à Londres. C'est la première entrevue depuis 10 ans entre les deux hommes, mais ce n'est pas la première entrevue entre le roi Hussein et des chefs de gouvernement israéliens. L'atmosphère est très amicale. Le premier ministre israélien montre sa préférence pour l'option jordanienne et se déclare prêt à soutenir les pro-hachémites en Cisjordanie. On se met d'accord pour une démarche en 3 temps. La délégation jordano-palestinienne rencontrerait Richard Murphy, le sous-secrétaire d'État américain chargé du dossier israélo-arabe. Puis l'OLP accepterait les conditions américaines pour un dialogue. Et enfin, on ouvrirait la négociation. Mais Peres refuse absolument que des membres reconnus de l'OLP fassent partie de la délégation. Le secrétaire d'État américain Schultz est ensuite informé de façon contradictoire par les Israéliens du contenu de la discussion. Peres lui envoie un émissaire qui lui explique qu'après protestation, Israël pourrait s'accommoder de la présence de l'OLP, tandis que Shamir, par l'intermédiaire d'un ami américain, fait savoir qu'il n'est pas question de laisser Murphy rencontrer un quelconque Palestinien, qu'il soit de l'OLP ou non. Ce serait contraire aux engagements de Sinaï II. Le secrétaire d'État consulte le président Reagan, qui tranche, il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur le refus américain de parler avec qui que ce soit, même vaguement relié à l'OLP. Et à Washington, le lobby pro-israélien se mobilise contre toute participation de l'OLP à la négociation. On a donc déjà, d'un côté, cette contradiction de la politique israélienne. Il y a 2 diplomaties israéliennes qui fonctionnent en parallèle et qui donnent des informations contradictoires. On est aussi face à 2 logiques opposées. Peres et les Américains veulent montrer au roi Hussein que la meilleure solution est de se passer de l'OLP en avançant l'idée que plus la centrale palestinienne serait affaiblie, moins on pourrait avoir besoin d'elle. Inversement, les Palestiniens et leur soutien arabe expliquent que seule une participation palestinienne forte permettra la viabilité des négociations et qu'une OLP affaiblie serait contrainte à des concessions qui seraient inacceptables et donc que le processus ne pourrait pas fonctionner. Pour les alliés arabes des États-Unis, il semble que les Américains suscitent en permanence de nouveaux obstacles pour la reprise du processus de paix et ils s'interrogent sur le sérieux de leurs intentions. L'attention se concentre sur la réunion d'un sommet arabe extraordinaire qui se tient à Casablanca, les travaux s'ouvrant le 7 août 1985. L'Égypte n'y est pas invitée. 16 pays arabes sur les 21 de la Ligue arabe sont représentés. L'abstention de la Syrie, donc par conséquent du Liban, de l'Algérie, du Yémen du Sud et de la Libye, donne la première place à l'OLP et à l'Irak. Le roi Hussein demande au chef d'État arabe de soutenir et d'appuyer l'accord jordano-palestinien. Cela est reçu avec tiédeur parce que la préoccupation principale est de ne pas aggraver les dissensions inter-arabes et la déclaration finale du 9 août annonce une médiation entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. La volonté iranienne de poursuivre la guerre contre l'Irak est condamnée. Les explications du roi Hussein et de Yasser Arafat sont enregistrées avec considération, mais on s'en tient strictement au plan de Fès sans indiquer de contradiction possible avec l'accord jordano-palestinien. On souligne l'indépendance dans le communiqué final de l'indépendance d'action de l'OLP. Je cite, « Le sommet réaffirme également le droit du peuple palestinien à l'indépendance de sa décision et se prononce contre toute ingérence dans ses affaires intérieures. Le sommet considère que la convocation d'une conférence internationale dans le cadre de l'ONU, avec la présence et la participation de l'Union soviétique, des États-Unis d'Amérique et des autres pays membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que la présence de l'ONP, le représentant unique et légitime du peuple palestinien aux côtés des autres parties concernées, est à même d'aider à l'instauration de la paix dans la région arabe. Donc, ces décisions ont peu de portée effective, mais marquent la solidité de l'axe Irak-Jordanie-ONP, axe dont l'Égypte fait implicitement partie. Pérez estime en tout état de cause que la route est difficile et pour arriver à des pourparlers de paix avec les Arabes, et dans sa déclaration affirme que c'est l'ONP qui est le principal obstacle à la paix. Achar Murphy reprend ses tournées dans la région, se heurtant toujours à la question de la représentation palestinienne. Il refuse de rencontrer des personnalités palestiniennes de Cisjordanie. À Londres, le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, qui soutient depuis le début l'initiative du roi Hussein, propose d'inviter au Foreign Office à Londres une délégation jordano-palestinienne, la représentation palestinienne étant assurée par deux personnalités dites pacifiques et opposées au terrorisme. C'est ainsi le but, ce serait de donner l'exemple aux Américains. Cette proposition britannique inquiète vivement les milieux dirigeants israéliens, tandis que le groupe Abou Nidal condamne à mort les deux personnalités palestiniennes. Quant à Shamir, il accuse Londres, la Grande-Bretagne, de se prêter à un nouveau Munich, au sens de Munich 1938, évidemment, pas 1972. Le 27 septembre, le roi Hussein s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU. Il reprend l'ensemble des arguments justifiant l'accord jordano-palestinien. Schulz essaye de trouver une solution de conciliation qui mettrait l'OLP à l'épreuve et propose le 1er octobre que la Jordanie et Israël s'adressent simultanément et séparément au secrétaire général de l'ONU pour lui demander de réunir une conférence internationale avec les membres permanents du Conseil de sécurité qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire sans l'Union soviétique, et sans la Chine populaire, c'est-à-dire avec les membres occidentaux du Conseil de sécurité. La conférence s'ouvrirait alors le 31 octobre et dans l'intervalle, les deux pays pourraient établir des relations diplomatiques avec Israël, tandis que l'OLP devrait reconnaître sans équivoque la résolution 242 et le droit d'Israël à l'existence, condition sine qua non pour ouvrir un dialogue avec les États-Unis. Si l'ONP renonce à la violence, elle pourrait participer à la conférence. Le roi Hussein ne se montre pas intéressé et semble surtout préoccupé de la question des ventes d'armes américaines à son pays. Le 30 septembre, le roi est reçu par Ronald Reagan et Schulz. Il semble prêt à avancer sans l'OLP, mais son premier ministre s'y oppose clairement. Et le roi Hussein refuse d'utiliser l'expression clé de non-belligérance avec Israël, qui est la condition imposée par les parlementaires américains pour autoriser les ventes d'armes à la Jordanie. Il s'en tient à une expression plus neutre de moyens non-belligérants. Du coup, l'initiative américaine échoue et une fois le roi parti, le secrétaire d'État américain exprime sa déception et traite le roi d'enfant gâté. Reagan le reprend en soupirant en disant « George, c'est un roi. He's a king », dit Ronald Reagan. On ne traite pas un roi d'enfant gâté. Alors, pendant que ces manœuvres diplomatiques continuent, il y a toujours ce même élan, contexte de violence et de terrorisme. Périodiquement, les dirigeants israéliens menacent de s'en prendre aux quartiers généraux terroristes palestiniens, entre guillemets, implantés en Jordanie. Tout en affirmant que l'OLP n'a aucune représentativité dans la population palestinienne, Israël lui fait porter la responsabilité de la montée des violences dans les territoires occupés. Ces accusations ont une part de vérité. Le départ du Fatah du Liban a permis au mouvement de se reconcentrer vers l'intérieur palestinien et sa réouverture des bureaux en Jordanie a ouvert la possibilité de renouer les contacts. Khalil al-Wazir, Abu Jihad, a réorganisé à partir d'Amman les réseaux du Fatah dans les territoires. Chaque attentat est maintenant revendiqué simultanément par l'OLP et par les mouvements dissidents, mais il est incontestable que le Fatah est en train de renforcer sa présence dans ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur. Donc là, on a encore le paradoxe des conséquences de l'invasion israélienne du Liban en juin 1982. En ayant chassé l'essentiel des forces palestiniennes du Liban, Israël a conduit l'OLP et le Fatah à se réimplanter systématiquement dans les territoires occupés, ce qui est l'amorce de la bascule qui va arriver dans les années 1990 entre l'extérieur et l'intérieur. Rabin, ministre de la Défense, donc responsable des territoires occupés, évoque ouvertement l'application d'une politique de la poigne de fer dans les territoires, réputation assez sinistre étant donné ce qu'avait été la poigne de fer israélienne au Liban Sud. Le 4 septembre 1985, il affirme, je cite, « Il est légitime pour Israël d'attaquer des objectifs terroristes où qu'ils se trouvent dans le bassin méditerranéen. L'activisme des extrémistes palestiniens dans les territoires est le fait d'une petite minorité qui ne parvient pas à perturber véritablement la vie quotidienne. L'expulsion des extrémistes et la détention administrative des activistes sont des moyens efficaces de répression. Ils n'avaient pas été utilisés depuis 6 ans. Ces dernières semaines, 68 personnes ont été placées en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement, et 4 autres ont été effectivement expulsées. » Le ministre de la Défense plaide pour le retour du Liban, enfin réinstalle les organes de sécurité israéliens dans les territoires occupés puisqu'ils sont retirés des zones d'occupation du Liban après le retrait sur la zone de sécurité. Il n'arrive pas à arrêter les violences des colons tout en tentant de leur interdire de se constituer en milice armée. Le Fatah a tenté à plusieurs reprises de lancer des opérations maritimes contre Israël à partir du Liban, puisque le Liban Sud, la voie terrestre, lui est maintenant fermée. Mais la marine israélienne a réussi efficacement à les intercepter en pleine mer. Ainsi, le 11 septembre, la marine israélienne intercepte un bateau faisant la liaison entre Chypre et le Liban et capture un commandant de la force 17, la garde personnelle d'Arafat. Le 25 septembre, un bateau de touristes israélien est pris d'assaut par un commando palestinien au port chypriote de Larnaca. Une femme est tuée et 2 hommes sont pris en otage. Encerclés par la police, les 3 agresseurs tuent leurs otages et se rendent. L'opération semble venir de la force 17. On laisse entendre qu'il s'agirait d'un règlement de compte entre services de renseignement israéliens et palestiniens, ce que l'on dément avec véhémence du côté israélien. Et jusqu'à aujourd'hui, les 2 thèses s'opposent, les Israéliens disant qu'il s'agissait de simples touristes, tandis que les Palestiniens affirment que les 3 Israéliens tués surveillaient le trafic naval palestinien au large de Chypre. Un tribunal chypriote condamnera les membres du commando à la détention à perpétuité au mois de décembre 1985. Immédiatement, du côté israélien, on prépare des représailles. Les durs du Likoud demandent un bombardement des représentations palestiniennes en Jordanie, ce qui permettrait de mettre fin au dialogue entre Peres et les Jordaniens. Mais le Premier ministre préfère l'option d'arrêt aérien à longue distance sur le siège de l'OLP à Tunis. Grâce au ravitaillement en plein vol, les 8 avions les 8 avions israéliens peuvent frapper l'objectif, causant la mort de 56 Palestiniens et de 15 Tunisiens et faisant plusieurs centaines de blessés. Arafat échappe de peu à la mort. La justification officielle israélienne est, je cite, de frapper les quartiers généraux terroristes de l'OLP responsables d'une série d'attentats criminels contre des civils innocents et notamment de 3 touristes israéliens tués le 25 septembre. Fin de citation. La Maison-Blanche qualifie le bombardement de réponse légitime et d'expression d'autodéfense contre des attaques terroristes. La colère est très grande dans l'ensemble du monde arabe. La presse diffuse des douzaines de photos de corps mutilés et démembrés et se tourne en particulier contre les États-Unis accusés de complicité avec Israël. Les États-Unis auraient fourni les avions ravitailleurs et la couverture radar à l'opération israélienne. Le gouvernement tunisien est d'autant plus ulcéré que c'est à la demande des États-Unis en 1982 qu'il a accueilli les quartiers généraux de l'OLP. Au Liban, le djihad islamique annonce en représailles l'exécution de William Buckley, le chef de la CIA au Liban, qui avait été enlevé par le djihad islamique quelques mois auparavant. Mais il est probable, en fait, que Buckley, qui avait été torturé, était déjà mort auparavant. Les Égyptiens suspendent les discussions avec les Israéliens. Les alliés des États-Unis du Golfe à l'océan sont profondément indignés. Et les ambassades américaines dans le monde arabe sont obligées de se barricader pour mesures de sécurité. Inquiets, les Américains font machine arrière et s'abstiennent le 4 octobre lors du vote de la résolution 573 du Conseil de sécurité qui, je cite, condamne l'acte d'agression armée perpétré par Israël contre le territoire tunisien en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vie humaine et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être coupable. Cela dit, comme toutes les autres résolutions de l'ONU sur ce genre de choses, ça reste lettre morte. Le 5 octobre, un policier égyptien pris, entre guillemets, d'une crise de folie, selon la version officielle, ouvre le feu sur des touristes israéliens dans le Sinaï, faisant 7 morts et plusieurs blessés. Le gouvernement égyptien exprime ses sincères condoléances et ses regrets aux familles des victimes et au gouvernement israélien, mais l'opposition égyptienne fait du policier un héros national. Dans les territoires occupés, on trouve les cadavres de 3 Israéliens dont l'assassinat est revendiqué par le Fatah. À la fin décembre, le policier égyptien sera condamné à la détention à perpétuité par un tribunal militaire et sera retrouvé suicidé dans sa cellule le 7 janvier 1986. Le 6 octobre, l'armée israélienne, après une longue chasse à l'homme, intercepte un commando palestinien dans la région d'Hébron, faisant 4 morts et un prisonnier blessé. On impute à ce groupe plusieurs attentats depuis mai 1984, ayant causé la mort de plusieurs Israéliens, dont 2 des victimes du début d'octobre. Alors, parmi la myriade d'organisations palestiniennes, il y a le Front de libération de la Palestine, le FLP, qui est une petite organisation radicale issue d'une scission des pro-syriens et financée par l'Irak. J'essaie de vous retrouver les noms. Son chef, Abou El Abbas, s'est rallié à Arafat tout en condamnant l'accord jordano-palestinien. Pour montrer que le Fatah n'est pas seul au sein de l'OLP, il a été désigné comme membre du comité exécutif de l'organisation. Mais Abou El Abbas tente à son tour une opération en Israël. Il s'agit de profiter d'une croisière du paquebot italien L'Aquila Lauro pour faire une prise d'otage dans un port israélien et négocier une libération de prisonniers. mais le commando de quatre hommes sur le point d'être découvert s'empare le 7 octobre du bâtiment. L'OLP envoie immédiatement l'un de ses responsables, Hani al-Hassan, ainsi qu'un boulet à basse négocié avec les pirates à partir de l'Égypte. Les Américains mobilisent immédiatement leurs forces spéciales pour lancer en liaison avec les Italiens une opération de sauvetage. Arafat condamne publiquement toute attaque contre les civils où qu'ils se trouvent. Les pirates exigent la libération des prisonniers palestiniens. En Israël et menace de tuer les otages. Le bâtiment, le navire est dirigé vers le port syrien de Tartous, mais les autorités syriennes se font un plaisir de coopérer au maximum avec les Occidentaux afin d'embarrasser Arafat et ses alliés et interdisent l'accès au port par le navire italien. Le 8 octobre, furieux, les ravisseurs assassinent un de leurs otages, un juif américain paraplégique de 70 ans, et jettent son cadavre à la mer. Abou El Abbas ordonne aux membres du commando de ne pas tuer de passagers et de se diriger vers le port égyptien de Port Saïd. Le même jour, en Tunisie, un policier tunisien, lui aussi pris de folie, ouvre le feu sur les fidèles de la synagogue de Djerba, faisant 5 morts et plusieurs blessés. Il tente de s'enfuir vers la Libye, mais intercepté et blessé par la police tunisienne. Et ultérieurement, le gouvernement tunisien accusera la Libye d'avoir planifié l'attentat. Le 9 octobre, après des négociations par radio avec les représentants de l'OLP et du gouvernement égyptien, les quatre pirates se rendent et libèrent le bâtiment en échange d'un départ pour la Tunisie par avion en compagnon d'Aboul El Abbas. C'est à ce moment-là que l'on apprend l'assassinat du passager américain. Le gouvernement américain exige qu'on lui livre les terroristes. Les Égyptiens affirment qu'ils ont déjà quitté le territoire égyptien, ce que les services de renseignement américains démentent grâce à leurs interceptions des communications radio de l'armée égyptienne. Les Américains décident alors de détourner l'avion égyptien une fois qu'il aura pris son vol. Une patrouille aérienne de la 6e flotte effectue l'opération dans la nuit du 10 au 11 octobre. L'avion égyptien est forcé d'atterrir sur la base militaire de l'OTAN de Sigonella en Sicile. La confusion est à ce moment-là complète. Les autorités italiennes avaient tenté de s'opposer à l'atterrissage, puis sur la base de l'OTAN, militaires italiens et militaires américains se font face à face avec armes des deux côtés pour savoir à qui revient l'avion et ses passagers, puisque juridiquement, on est sur le territoire italien. Tandis que les Égyptiens hurlent à la violation de leur souveraineté, puisque c'est un avion gouvernemental égyptien qui a été détourné. Les militaires de chaque camp consultent le supérieur, tandis que les gouvernements italiens et américains ont des échanges plutôt tendus. Après un certain nombre de péripéties, les quatre pirates sont livrés aux autorités italiennes pour être jugés, tandis qu'Hani al-Hassan et Abou El Abbas, sous protection italienne, réussissent à rejoindre la Yougoslavie. Les membres du commando seront condamnés à de lourdes peines de prison par la justice italienne. Le meurtrier du paraplégique Léon Klinghoffer devra purger une peine de 30 ans. Abou El Abbas sera reconnu coupable de l'organisation des détournements et condamné par contumace à la détention à perpétuité. Tandis que l'administration Reagan pavoise sur ce grand succès contre le terrorisme, la crise est profonde avec l'Égypte qui parle à son tour de piraterie. L'Égypte est mal récompensée, dit-elle, pour avoir sauvé la vie des otages et Moubarak se plaint d'avoir été attaqué par un ami. Il a voulu servir de médiateur dans l'affaire comme les Syriens l'avaient fait lors du détournement de l'avion de la TWA. Le 14 octobre, le corps de la victime américaine est retrouvé par les Syriens qui le remettent aux autorités américaines, ce qui authentifie ainsi le crime. Lancé officiellement dans une guerre sans frontières contre le terrorisme, selon l'expression de William Kazin, le chef de la CIA, les États-Unis lancent un mandat d'arrêt international contre Abou El Abbas, en même temps que d'autres contre les auteurs présumés du détournement de l'avion. En même temps, on adresse des messages de conciliation à l'Égypte, tout en refusant de fournir des excuses. Pendant tous ces événements chargés de début octobre, le roi Hussein, le 5 octobre, a une nouvelle entrevue avec Shimon Peres à Londres, au domicile d'un ami commun. Le roi et le premier ministre expliquent leurs contraintes respectives et pour le roi, nécessité d'une présence de l'OLP et d'une conférence internationale, et le gouvernement d'union nationale pour le second. L'entretien se déroule de façon courtoise, mais le monarque hachémite en conclut qu'il a peu à attendre de la part du gouvernement israélien. Ensuite, l'affaire de l'Aquila et l'Oro l'amène à considérer que l'OLP n'est pas un partenaire fiable. En maître hors de pair de la survie politique, le monarque hachémite commence à considérer la nécessité d'un rapprochement avec la Syrie et des contacts sont pris en ce sens avec Damas en utilisant le canal de médiation saoudien entre les deux pays prévu par la conférence de Casablanca. À Londres, un désaccord au dernier moment conduit à l'annulation de la rencontre prévue le 14 octobre entre la délégation jordano-palestinienne et le secrétaire d'État au Foreign Office. On ne précise pas le contenu des désaccords qui porterait sur la rédaction du communiqué final. Le débat porte sur l'exigence préalable à toute discussion que l'OLP s'engage à abandonner l'usage de la violence et du terrorisme, alors que pour les intéressés, il s'agit d'actes de résistance. De surcroît, les Américains refusent de considérer le bombardement de Tunis comme un acte terroriste, ce qui provoque l'indignation des Arabes. À son retour de Grande-Bretagne, le roi Hussein transmet à la direction palestinienne les trois exigences américaines avant toute négociation : acceptation des résolutions 242 et 338, formule de la délégation jordano-palestinienne et renonciation officielle au terrorisme. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 21 octobre, Peres laisse entendre que son pays pourrait accepter, si cela devait apparaître comme nécessaire, que les discussions puissent se faire avec le soutien d'un forum international composé des membres permanents du Conseil de sécurité entretenant des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire qu'il reprend la formule de Schultz. Tout en appelant à ce que les Palestiniens y participent, il rejette toute présence de l'OLP. Mais cette déclaration suffit pour provoquer les protestations du partenaire dans le gouvernement de coalition, qui est le Likoud. Au mois de novembre, il se produira une violente altercation entre Peres et Sharon, qu'il accuse de trahison et de lâcheté lors de la réunion du gouvernement. Et Peres exige des excuses publiques, sinon il mettra fin au gouvernement d'union nationale et Sharon doit s'exécuter du bout des lèvres. Quant à Peres, il a trop peur de se faire accuser une nouvelle fois d'intrigue et de manipulation pour mettre fin au gouvernement d'union nationale. Si sa popularité est au plus haut, les sondages lui accordent 67% de satisfaction, il sait que les partis religieux préfèrent le gouvernement d'union nationale et ne sont pas prêts à s'allier avec lui. En même temps, sa marge de manœuvre se réduit progressivement puisqu'il ne lui reste plus que quelques mois avant la rotation des fonctions avec Shamir. Le roi Hussein approuve la déclaration de Peres comme un pas dans la bonne direction. La direction de l'OLP y voit un signe encourageant avec l'acceptation du principe d'une conférence internationale, mais prévient que rien ne peut se faire sans elle. Elle s'inquiète des indications convergentes d'un rapprochement en cours entre la Jordanie et la Syrie. Si l'administration Reagan exulte, elle connaît un grave revers quand le Congrès renvoie au mois de mars prochain la discussion sur d'éventuelles livraisons d'armement à la Jordanie. Le roi Hussein en ressent une vive amertume alors qu'il est allé au maximum de ce qu'il pouvait faire dans les concessions exigées. À la fin octobre, Arafat se rend à Amman afin d'examiner les derniers développements de la situation. Le climat n'est pas à l'optimisme. Alors que les Palestiniens se montrent particulièrement agressifs envers les États-Unis, les Jordaniens insistent sur la nécessité d'une déclaration de renonciation à la violence. Le 7 novembre, Arafat, après avoir conféré avec Moubarak, s'exécute de ce qu'on appellera la déclaration du Caire. Elle rappelle le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à créer son propre État sur sa terre, condition indispensable pour que tous les peuples de la région puissent vivre en paix, libres de tout terrorisme et de domination. L'OLP a marqué son attachement à une solution juste et pacifique en approuvant le plan de Fès et l'accord jordano-palestinien, ainsi que la convocation d'une conférence internationale. Dans cet esprit, elle critique et condamne tous les actes de terrorisme commis par des États, des groupes ou des individus contre des personnes innocentes et sans défense. Tout acte de ce genre commis de l'extérieur de la Palestine sera interdit. Cette démarche ne peut être unilatérale et la communauté internationale doit forcer Israël à mettre fin à tous ces actes de terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur de la Palestine. Le droit de résister à l'occupation et de lutter pour la libération de sa terre est un droit garanti par la charte de l'ONU et de nombreuses résolutions de l'organisation internationale. Les événements démontrent que les actes commis en dehors de la Palestine portent tort à la cause palestinienne. Une paix garantissant les droits nationaux du peuple palestinien est le meilleur moyen de mettre fin au terrorisme. Donc, vaste déclaration qui est une demi-renonciation, puisqu'elle n'est pas une renonciation à la violence. Et Arafat précise le lendemain qu'il faut entendre par les territoires occupés ceux définis dans ce sens par l'ONU, donc pas par Israël dans ses frontières de 1967. Les États-Unis déclarent attendre juger sur pièce, tandis qu'Israël exprime son scepticisme. Et quant aux opposants d'Arafat, il l'accuse d'avoir abandonné la lutte armée sans aucune contrepartie. Il est maintenant trop tard. Le 10 novembre, dans une lettre publique à son premier ministre, le roi Hussein reconnaît la responsabilité de certains éléments résidents dans son pays dans les actes sanguinaires commis en Syrie. Sans les citer, il désavoue les frères musulmans, ce qui était l'acte demandé par la Syrie pour opérer un rapprochement. Ce fait que le rapprochement jordano-syrien amène un nouvel isolement de l'OLP. Dans son but, le roi Hussein vise aussi d'obtenir un relâchement de l'alliance entre la Syrie et l'Iran, ce qui pourrait faciliter la fin de la première guerre du Golfe. Une affaire inattendue provoque une forte tension entre Israël et les États-Unis. Le 21 novembre 1985, le FBI arrête un employé civil de la marine américaine travaillant dans les services de renseignement, un certain Jonathan Pollard. En tant qu'analyste, il avait reçu une accréditation lui permettant d'avoir communication d'informations dites sensibles. Ce n'est qu'au moment de son arrestation, à proximité de l'ambassade d'Israël, que le FBI découvre qu'il travaille pour l'État hébreu alors qu'il était soupçonné d'être au service d'un autre pays, du bloc de l'Est, bien évidemment. Le FBI ne savait même pas que l'individu en question était juif. C'est un militant sioniste ardent qui a pris contact de lui-même avec les services de renseignement israéliens. Il a été pris en charge par le Bureau de liaison scientifique, ou l'ACAM, créé en 1960 par Peres pour recueillir des informations scientifiques et technologiques. Si la motivation politique est évidente, Pollard a reçu aussi une somme de 30 000 dollars par an de la part de son officier traitant israélien. Il a fait passer plusieurs milliers de documents à ses agents. La colère américaine est d'autant plus forte que Pollard ne s'est pas limité au Moyen-Orient et aurait fourni aussi des documents concernant le renseignement américain en Afrique du Sud, documents qu'Israël aurait ensuite retransmis au régime de l'apartheid. Bien évidemment, le gouvernement israélien désavoue l'ensemble, évoquant une initiative incontrôlée prise sans autorisation, mais les confessions de l'espion sont accablantes pour ses officiers traitants. Pollard sera condamné à la prison à vie et ne sera libérable qu'à partir de 2015. Régulièrement, les Israéliens demanderont sa libération, jusqu'à aujourd'hui, mais les États-Unis resteront inébranlables sur cette question. Outre la rupture de foi, les services américains sont très montés sur cette affaire et sur le fait, justement, qu'ils ne considèrent pas Pollard comme un détenu politique, mais comme un détenu de droit commun, puisqu'il était payé. Or, la somme de 30 000 dollars par an continue à être mise sur son compte tous les ans par Israël. Donc, quand il sera libéré, il sera un millionnaire en dollars. Donc, c'est un facteur de tension supplémentaire entre les États-Unis et Israël, puisqu'Israël le considère comme un prisonnier politique et non pas comme un droit commun. Le roi Hussein tente d'intéresser la Syrie à son initiative de paix, mais Damas reste sur ses positions radicales. Au mois de décembre, suite à la destruction de deux avions de combat syriens par une patrouille israélienne aérienne au-dessus du Liban, la Syrie déploie ses batteries sol-air à la frontière libanaise et même dans la Bekaa, d'où menace de guerre de la part d'Israël qui exige le retrait des batteries, puis médiation américaine facilitée par le fait que les deux pays ne veulent pas faire la guerre. Contre une vague assurance de Richard Murphy qu'Israël ne recommencerait pas à s'en prendre à l'aviation syrienne, Damas retire les batteries mobiles du territoire libanais, mais non des zones frontalières où elles couvraient, où elles couvrent plutôt l'espace aérien libanais. Le terrorisme continue de faire des ravages. Dans la guerre des camps, le groupe Abu Nidal avait rejoint les autres combattants palestiniens dans les combats contre Hamal, ce qui avait conduit à une détérioration des rapports entre le groupe Abu Nidal et les Syriens. Le chef terroriste mercenaire arrête alors ses attentats contre les cadres de l'OLP et des responsables jordaniens pour revenir à des objectifs plus occidentaux. Il semble avoir trouvé un nouveau commanditaire dans le régime libyen en pleine confrontation avec les États-Unis. Son but est aussi d'embarrasser la Syrie afin de se faire expulser de ce pays et ainsi d'apparaître comme un héros palestinien qui refusait de suivre la ligne de Damas dans la guerre des camps. Le 23 novembre, un avion de ligne égyptien, le même intercepté quelques jours plus tôt par les Américains, est détourné par un commando du groupe Abu Nidal sur Malte. Les commandos assassinent plusieurs passagers. L'Égypte envoie des forces spéciales libérer l'avion au prix d'un carnage qui fait 61 morts chez les passagers. L'Égypte accuse la Libye d'être derrière l'opération. Le 24 décembre, deux commandos du groupe Abu Nidal attaque simultanément les comptoirs d'El Al à Vienne et à Rome, tuant 18 personnes et faisant au moins 110 blessés. Les États-Unis accusent la Libye d'avoir commandité ces attaques et imposent des sanctions économiques contre ce pays. Si les Israéliens accusent la Libye d'abriter Abu Nidal, ils ne prennent aucune action contre lui, en dépit de diverses rodomontades verbales. Contre toute vraisemblance, les Israéliens essayent d'appliquer le Fatah et l'OLP dans les actes du groupe Abu Nidal, passant sous silence les nombreux assassinats de cadres du Fatah et de l'OLP par cette organisation. La seule tentative menée par Israël sera le détournement d'un petit avion civil libyen allant de Chypre en Syrie par la chasse israélienne, le 4 février 1986. L'avion était censé transporter une personnalité importante du terrorisme international, mais il n'y avait à bord que des responsables politiques syriens de second rang qui seront immédiatement relâchés. Les pays arabes crient à la piraterie aérienne, mais les États-Unis imposeront leur veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant cet acte. En Méditerranée, les Américains rejettent la prétention de la Libye d'étendre ses eaux territoriales au golfe de Sirte entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Mais je sais que maintenant, vous connaissez tous la géographie de la Libye par cœur. La 6e flotte y fait une imposante démonstration navale qui aboutit le 23 mars à une confrontation armée, les Libyens enregistrant, semble-t-il, de lourdes pertes. L'OLP et la Jordanie condamnent avec véhémence ces actes. À la fin décembre, au Liban, la politique syrienne semble triompher. Le 28 décembre, les chefs des trois grandes milices, Berri, Jumblat et Obeika, signent un accord de paix à Damas. En dehors des bonnes résolutions sur le système politique libanais, la thématique de la résistance qui va prendre une place essentielle dans la vie politique libanaise pour les décennies suivantes est maintenant clairement inscrite. Poursuite dans l'escalade de la résistance pour la libération du Liban de l'occupation israélienne, de la liquidation de sa présence directe ou indirecte et rejet de toute forme de sécurité des instruments suspects et résistance contre tout instrument local lié à l'occupant, assurer toutes les possibilités, mobiliser toutes les potentialités officiellement pour soutenir la résistance nationale au sud par les effectifs, car elle est la base essentielle pour l'opération de libération et un fondement authentique pour la réunification du Liban, soutenir la résistance et l'attachement du sudiste à sa terre en lui assurant les moyens de développement humain, matériel et économique, action en vue de l'application de la résolution 425 et des autres résolutions du Conseil de sécurité stipulant l'éviction de l'occupation israélienne et le refus des conditions israéliennes et retour à la convention d'armistice du 23 mars 1949. Il s'ensuit dans ce plan de paix libanais l'établissement d'une coopération permanente entre la Syrie et le Liban face aussi bien à Israël qu'à l'OLP. Je cite, « Il est impératif que le Liban ne constitue pas une porte par laquelle Israël peut attaquer ou menacer la Syrie qui, dans sa lutte cruciale contre Israël, tente d'instaurer un nouvel équilibre de force dans la région après le retrait égyptien du conflit israélo-arabe et la constitution d'axes palestino-arabes dirigés contre la Syrie. C'est pour ça qu'il est nécessaire que des unités militaires syriennes prennent position en différents points du Liban, qui seront définis par des commissions militaires mixtes conformément aux nécessités de sécurité stratégique syrienne et libanaise, le temps que l'armée libanaise soit restructurée sur la base d'une idéologie combattante nationale qui sépare clairement les amis des ennemis. Une fois que l'armée sera restructurée et réhabilitée, elle devra assumer ses fonctions défensives face à l'ennemi israélien et jouer sur le territoire libanais le rôle qui lui revient sur le plan de l'équilibre stratégique régional. Si la résistance contre Israël est au centre des choses, les Palestiniens sont totalement absents d'accords tripartites, conclusion de l'évolution qu'a connue le pays depuis 1982. L'absence de signataires sunnites montre l'effacement de cette communauté dont les principales milices ont été éliminées à Beyrouth et à Tripoli. La principale force d'opposition à l'accord est le Hezbollah, qui apparaît alors comme le principal obstacle à la paix syrienne. Le 30 décembre, le roi Hussein se rend en visite officielle à Damas, concluant le rapprochement en cours. Les entretiens durent plusieurs heures, mais aucun communiqué n'est publié à la fin de la visite. La Syrie a intérêt à ménager l'Iran, que la diplomatie jordanienne inquiète. Téhéran a peur de voir se former un front uni arabe de soutien à l'Irak. Le roi Hussein est maintenant en position pour mettre fin à son initiative, tout en allant apparemment dans le sens des Américains et en faisant porter la responsabilité de l'échec sur Yasser Arafat. C'est un métier d'être chef d'État arabe. Voilà donc ce fin de chapitre. Nous allons aborder un nouveau chapitre maintenant qui j'ai appelé un peu interlude, c'est-à-dire 1986-1987. Non pas qu'il ne se passe pas grand-chose, il se passe beaucoup de choses durant ces années 1986-1987, mais disons que même s'il se passe beaucoup de choses, on n'avance en rien vers la solution du problème. Je commencerai par deux citations. La première de Rabin, le 5 mars 1986. Je cite « L'erreur arabe est de croire que nous sommes à bout de souffle. Or, nous ne le sommes pas, d'autant plus que l'administration de la Cisjordanie et de Gaza ne présente ni difficultés ni de problèmes particuliers pour les responsables israéliens. » Évidemment, ça fait partie des grandes déclarations de l'histoire dont il vaut mieux taire l'existence. La seconde est une analyse du journaliste israélien Zev Shift dans Haaretz le 18 septembre 1987. Zev Shift était l'expert militaire de la presse israélienne, donc quelqu'un d'extrêmement considéré. Et vous voyez qu'il ne mâche pas ses mots. Même si Arafat se revêtait d'un châle de prière, nouait des phylactères à son front, agitait un drapeau israélien et appelait à la signature d'un traité de paix avec nous, il se trouverait encore beaucoup de gens pour déclarer qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit et fait. Ce qui compte n'est pas le contenu de ces déclarations, mais le fait qu'actuellement Israël ne veut pas négocier avec les Palestiniens, qu'Israël n'a rien de concret à offrir actuellement à la direction palestinienne. Quelques personnes, particulièrement dans les rangs travaillistes, expliquent que leur opposition à tous les pourparlers avec l'OLP découle de leur désir de négocier avec Hussein, ce qui présuppose que le roi négociera à notre place avec les Palestiniens et l'OLP, et également que le royaume hachimite est là pour toujours et que rien ne changera jamais à l'est de chez nous. L'ironie réside dans le fait que la plupart des adeptes de la négociation avec les Jordaniens savent bien au fond d'eux-mêmes que ce qu'Israël veut vendre à Hussein suffira à peine à payer le premier pas d'un arrangement avec les Jordaniens. Ce n'est pas assez pour obtenir la paix, et ce dont la plupart des partis politiques ont peur n'est pas simplement de négocier avec les Palestiniens, mais de négocier aussi avec Hussein et les Jordaniens dans le cadre d'une conférence internationale ou n'importe quelle autre conférence. Ce qui est frappant, c'est qu'un départ parfaitement similaire se déroule simultanément du côté palestinien. Donc, vous voyez, ces textes montrent l'impasse politique. Alors, le premier acte, en quelque sorte, c'est la fin de l'accord jordano-palestinien. Le début de l'année 1986 est marqué par un certain nombre de provocations de part et d'autre. Le 1er janvier, pour la première fois depuis 1982, des roquettes sont tirées à partir du Liban Sud sur la ville israélienne de Kiryat Shmoneh. Il n'y a pas de victimes, mais des dégâts matériels. Peres menace le Liban de représailles qui sont effectivement faites contre des villes, des agglomérations chiites du Sud. Selon l'expression des militaires israéliens, si l'on ne peut dormir tranquillement à Kiryat Shmoneh, on ne dormira pas tranquillement ailleurs. Rabin fait des déclarations équivalentes. On apprend l'exécution d'otages juifs libanais détenus par l'Organisation des opprimés sur la terre en représailles contre les exactions israéliennes au Liban Sud. C'est certainement un prête-nom du Hezbollah. Le Liban adresse une plainte au Conseil de sécurité sur le comportement israélien au Liban Sud. Une résolution condamne la politique israélienne et se heurte à un veto américain le 17 janvier. En secteur chrétien, l'accord tripartite provoque une forte opposition. Samir Jaja et Amin Gemayel coordonnent leur action. En quelques heures, le 15 janvier 1986, leurs milices balayent les hommes de Beika, qui doit la vie sauve à l'intervention de l'armée de Michel Aoun, qui assure l'évacuation de Beika et de ses hommes vers le secteur syrien. Cette opération est appelée une intifada, c'est une des séries d'intifadas libanaises des années 80, a pour bilan 350 morts chrétiens, et du maintenant, Obeika, l'homme principal responsable des massacres de Sabra et Shatila, et devient un instrument fidèle de la politique syrienne, après avoir été entraîné par Israël au combat. Ce type de mercenaires que les guerres civiles suscitent. La guerre civile reprend alors de plus belle au Liban. Les pro-syriens exigent la démission du président Gemayel et la monnaie libanaise continue de perdre sa valeur, perdant plusieurs centaines de fois sa valeur en quelques mois. C'est une inflation à plusieurs chiffres. Comme ce qu'on appelle une hyperinflation. La question du Liban Sud reste primordiale. La résistance islamique continue de harceler la ceinture de sécurité, l'ALS, l'armée du Liban Sud, et les troupes d'occupation israéliennes. À la mi-février, deux soldats israéliens sont enlevés dans le secteur de Benjbeil. L'armée israélienne ratisse le Liban Sud à leur recherche. En représailles, on annonce l'exécution de l'un des prisonniers. Au bout d'une semaine, l'armée israélienne revient sur ses positions. Le vainqueur est le Hezbollah, qui a renforcé son ancrage dans la population locale que la brutalité de la répression a fait basculer du côté des radicaux. Il est maintenant sûr que la guerre d'usure contre l'occupant israélien va se poursuivre. La Galilée israélienne est de nouveau exposée à des tirs de roquettes, beaucoup plus fréquents qu'avant juin 1986. 1982. Le 8 janvier, une délégation parlementaire israélienne, composée essentiellement de députés de droite et d'extrême droite, de leur entourage et de membres de mouvements messianistes juifs, se rend au Haram el-Sherif, donc les lieux saints, en coordination avec l'autorité religieuse islamique gérant le lieu saint et la police. Après avoir visité la mosquée Al-Aqsa, la délégation refuse de se plier au règlement interdisant la prise de photographies. La tension monte rapidement avec les gardiens musulmans. Les fidèles musulmans accourent et la visite doit être abrégée. La presse israélienne évoque une atmosphère de pogrom. Le 10 janvier, Ariel Sharon se rend à son tour dans l'esplanade, tandis que les messianistes se voient interdire d'y hisser le drapeau israélien. Le 14 janvier, la délégation parlementaire revient et provoque de nouveaux troubles quand un de ses membres entreprend d'y prier, ce qui est interdit par les règlements israéliens. Pérez proclame que la souveraineté israélienne est irréversible sur l'ensemble de la ville sainte et le foyer de tension des lieux saints a été ainsi réactivé. Si le grand rabbinat d'Israël rappelle qu'il est strictement interdit à tout juif de pénétrer dans l'enceinte du mont du Temple en raison de la sainteté du lieu, au risque de marcher sur l'emplacement où se trouvait le Saint des Saints, le rabbinat séfarade demande la construction d'une synagogue derrière la mosquée El-Aqsa. Arafat a parfaitement compris que le rapprochement jordano-syrien se fait au détriment des relations jordano-palestiniennes. Il accuse la Syrie et la Libye d'être derrière les attentats en Europe, alors que pour le gouvernement israélien, Arafat et Abou Nidal sont la même chose. Arafat réitère le 12 janvier à Jeddah sa condamnation de l'OLP de toutes les formes de terrorisme commis contre des civils partout où ils se trouvent. Le roi Hussein continue, lui, à préparer sa sortie du processus. Dans ses entretiens en janvier 1986 avec Gerard Murphy à Londres, où il réside pour des raisons médicales, le monarque a demandé un certain nombre de clarifications de la part des Américains. On reprend les formules déjà utilisées, reconnaissance des résolutions 242-338, de l'État d'Israël, renonciation à la violence comme ticket d'entrée aux négociations. Ensuite, on transmet aux intéressés qui répondent que c'est trop demandé pour pas grand-chose. L'OLP exige que l'on reconnaisse le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. On fait alors passer le message aux Américains qui acceptent la référence au, je cite, « droit légitime du peuple palestinien », 25 janvier 1986, et le roi Hussein fait savoir à Arafat que c'est à prendre ou à laisser. Ce dernier rejette le texte américain parce qu'il n'est pas l'équivalent du droit à l'autodétermination. Une dernière fois, Arafat se rend à Amman pour un dialogue de sourds. L'OLP pousse alors à geler l'accord et à concentrer les efforts sur une réconciliation interpalestinienne et avec la Syrie, ce qui n'est pas du tout du goût du roi Hussein. Moubarak propose sa médiation en tentant de promouvoir une initiative européenne qui pourrait suppléer au Forum international. Une ultime clarification américaine a lieu le 11 février. Les droits des Palestiniens vont au-delà de ceux que prévoient les résolutions 242 et 338, mais doivent être déterminés au cours du processus de négociation et non préalablement. Il doit y avoir une participation palestinienne à tous les stades du processus de négociation. Tout accord sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza doit recevoir l'agrément préalable des habitants des territoires. Le vocabulaire ne doit pas tromper. La perspective américaine reste largement celle d'une autonomie palestinienne sur un territoire qui reste à déterminer. La négociation est une formule magique qui doit conduire les Palestiniens à accepter cette solution. Comme le montre le long débat sur les conditions formelles du processus de paix, elle tend à devenir une fin en soi qui fait passer au second plan les résultats que l'on peut en attendre. Alors nous allons faire, à satisfaction de tous, une pause de 5 minutes avant d'apprendre la seconde heure.